Bonjour à tous. On voudrait d'abord vous remercier de votre présence. C'est très apprécié. Vous êtes très nombreux. On est heureux. Puis, donc, on va ouvrir cette journée sur le personnage contemporain en faisant une présentation. On est le comité organisateur. Moi, c'est Mylène Truchon. Ensuite, à ma gauche, on a Gabriel Caron et Raphaël Guillois. On a décidé de vous faire une présentation séparée en trois sections que vous allez découvrir dans quelques instants. Donc, je serai la première et je vais vous faire un petit survol de ce qu'est la littérature contemporaine en général. Je commence. Il serait vain de prétendre pouvoir faire une histoire de la littérature contemporaine. D'une part, parce qu'il paraît impossible de faire le résumé d'un mouvement dans lequel nous sommes toujours, et d'autre part, parce que les idées qui l'animent sont extrêmement vastes et variées. En fait, nous en sommes même à un point où les genres s'hybrident, se mélangent et se brouillent incessamment. Les emprunts et les cohabitations meublent nombre d'œuvres, créant sans cesse de nouveaux styles. C'est donc humblement que je tenterai aujourd'hui de faire le panorama des tendances qui, en France et au Québec, ont animé le roman dans les dernières décennies, sans chercher naturellement à en encourir l'entièreté. Si, au 20e siècle, il est vrai que l'on pouvait encore lire de nombreux romans dits traditionnels, il faut cependant mentionner que les livres remettant en norme les causes ont eux aussi de même été très nombreux. Bien sûr, il y a eu existence d'une littérature populaire, le roman policier, le roman de science-fiction, le roman d'action, toutes ces formes ont connu un grand succès auprès du lectorat. On a néanmoins vu parallèlement la mise en place d'une imposante littérature expérimentale où tout était brassé et éclaté. La littérature voulait réfléchir et elle voulait que son lecteur fasse le même exercice. En France, l'esthétique dominante des années 1950 à 1970 est le nouveau roman, dans lequel la forme prend le dessus sur le contenu. Le langage devient lui-même le sujet du texte et il est sans cesse remis en question. L'œuvre, pour ce faire, rappelle qu'elle est un produit fictif. On le fait puisqu'on ne croit pas que le langage puisse fidèlement représenter la réalité. De plus, les procédés d'écriture sont eux aussi remis en question. Les récits n'ont plus de suspense, de rebondissement, de support chronologique ou de personnages psychologiques. Dans certains cas, la recherche de sens est même complètement délaissée. Les surréalistes, notamment, font de l'écriture automatique ou inventent de nouveaux langages. Ils considèrent maintenant le roman comme un laboratoire dans lequel tout devient possible. Le but premier de l'écriture n'est alors désormais plus nécessairement d'être le support d'une intrigue ou d'une idéologie, mais plutôt de montrer quelles sont les limites de la fiction. Dès 1980, la littérature française retrouve cependant l'envie de raconter des histoires. Il s'agit d'ailleurs d'une littérature transitive, c'est-à-dire d'une littérature qui s'intéresse à autre chose qu'à elle-même. On a conscience de son temps, des désirs et des inquiétudes de son époque et des moyens littéraires à notre portée. La fiction n'est donc pas une simple production hermétique de l'imaginaire, comme elle l'a déjà été. Elle est aussi un produit de la réflexion. La littérature contemporaine déconcertante est donc exigeante envers elle-même, car elle s'attribue deux tâches, réfléchir sa forme et sa fonction, de même qu'interroger son monde. Elle se pense ainsi comme une activité critique et transmet ses interrogations, notamment en remettant en question les idées préconçues. Elle est donc, en ce sens, héritière du nouveau roman. Le contexte dans lequel sont plongés les écrivains de la fin du 20e siècle les amène à écrire des œuvres à tendance anti-humaniste. Le progrès, croit-on, mène l'homme tout droit à sa mort, et on ne porte plus foi en la suprématie de la raison humaine. En d'autres mots, on n'accepte plus comme vrai le fait que l'humain soit maître de lui-même. De là, il y a désillusion. En conséquence de quoi les artistes se replient sur eux-mêmes. Des genres comme l'autobiographie et l'autofiction, par lesquels on peut se raconter, gagnent en popularité. La pratique n'est alors plus uniquement réservée aux gens célèbres qui avaient une vie remplie et qui cherchent à faire la somme de cette vie, mais plutôt, elle n'a rien de flamboyant et les événements racontés sont anodins. Le roman, la poésie, le théâtre sont tous touchés par ce spleen. Au Québec, la littérature emprunte un autre chemin. En 1960, la Révolution tranquille opère une rupture symbolique avec le passé. On ne cherche plus à ne parler que de la nation et du terroir, mais on veut tout de même parler de soi en tant que peuple. Et bien qu'il existe des auteurs québécois qui s'inspirent des Français, on peut penser à Claude Gauvreau et son langage exploréen. Ce qui s'écrit s'éloigne généralement de ce qui se fait à la même époque en France, puisqu'on fait de la littérature engagée. Dès 1970, dans le contexte de la crise d'octobre, les auteurs perdent toutefois leur entrain et sombrent dans le désenchantement. Puis, en 1980, le milieu littéraire se démobilise. La question identitaire n'est plus mise de l'avant et, décentralisée et minimisée, la littérature est en perte de repères. Tous ces décentrements mènent au décentrement du sujet lui-même, qui doit désormais reconstruire son image dans un monde où la nation et la famille ont disparu. L'écriture de l'intériorité, où l'on met en scène un personnage qui est plongé en lui-même, qui est sans appui et qui se cherche, connaît un boom de popularité. Parallèlement à cela, l'écriture migrante se taille une place dans le paysage littéraire québécois. Une nouvelle esthétique fait son apparition et des thèmes comme l'exil, l'errance et les origines sont mis de l'avant. Tous ces mouvements, en France et au Québec, ont chamboulé la vision traditionnelle que l'on avait du roman. L'un des éléments les plus fortement touchés par ces remous a été la notion de personnage. Il se crée toute une critique qui s'interroge sur sa définition et sur le rôle qu'il occupe dans le texte. Il est ainsi désormais un objet d'étude priorisé. Sur ce, je vais laisser la parole à Gabriel Caron, qui va vous parler plus précisément de cette critique sur le personnage.
Donc, comme Hélène le disait, le personnage romanesque est un élément textuel dont l'étude ne fait pas l'unanimité. Du modèle canonique des classiques à la remise en question du personnage par le nouveau roman, en passant par les études psychanalystes, formalistes et sémiologiques, différentes écoles de pensée ont proposé plusieurs manières d'appréhender le personnage et de l'étudier. Par contre, au début du 21e siècle, nous remarquons que le personnage semble s'éloigner des conceptions un peu plus traditionnelles et que la critique commence à avoir de la difficulté à circonscrire ses nouvelles manifestations et ses déroutes. De manière à bien cerner le sujet de notre journée d'étude d'aujourd'hui, je me permets de vous proposer un petit survol de l'évolution de l'étude du personnage au cours du 20e siècle, puisque c'est à ce moment-là qu'il est devenu une notion théorique à part entière. Donc, pour commencer, c'est en 1920 que Lukács propose sa théorie du roman, dans laquelle il explore la notion de héros, depuis l'épopée grecque jusqu'au roman, en passant par la tragédie et la philosophie. Dans son texte, il considère le personnage romanesque comme problématique à cause du rapport difficile qu'il entretient avec son monde. Parallèlement, les formalistes russes s'intéressent à plusieurs notions littéraires, dont celle du personnage. On se souviendra entre autres des 31 fonctions présentes dans le conte traditionnel russe, élaboré par Vladimir Propre. Par contre, les textes formalistes ne sont traduits et rendus largement accessibles qu'au cours des années 60, durant lesquelles les structuralistes vont s'inspirer de leur théorie. Parmi les structuralistes, on retrouve Grémas, un théoricien qui considère les personnages comme des acteurs tenant des rôles sémantiques dans la structure narrative. Il nomme ces rôles des actants et met au point le schéma actantiel qu'on connaît aujourd'hui. Les acteurs, comme ils les appellent, peuvent ainsi avoir les fonctions de sujet, d'objet, de destinataire, d'adjuvant ou d'opposant. Toujours dans les années 50 et 60, la montée du nouveau roman vient repenser la nécessité même du personnage. Des expérimentations tendent alors à le supprimer ou du moins à le décomposer complètement, ce qui le rend insaisissable et flou. À la même époque, en 1964, le sociologue Lucien Goldman s'inspire de la théorie du roman de Lukács que je viens de vous présenter, pour offrir une vision sociologique du personnage. Il le considère alors comme faisant partie d'une transposition littéraire de la vie quotidienne de l'homme individuel dans le rapport qu'il entretient avec les objets, les biens et les autres individus de la société économique. Goleman note ainsi une relation entre les changements au cœur de la vie économique et la dissolution progressive du personnage littéraire et du héros. En 1974, le sémioticien Philippe Hamon publie un article intitulé « Pour un statut sémiologique du personnage », dans lequel il considère le personnage comme une construction progressive du texte. Il affirme que le personnage agit en tant qu'unité d'un système et qu'il peut s'étudier de la même façon qu'un discours, c'est-à-dire à partir de la manifestation d'un signifiant qui renvoie à un signifié et qui charge progressivement de sens l'œuvre à laquelle il appartient, selon des règles qui sont propres à cette œuvre. Hamon considère ainsi le personnage comme un signe qui fait partie d'un système et qui ne peut se révéler complètement qu'à la fin d'une œuvre quand il n'y a plus d'informations supplémentaires. Michel Herman, lui, croit que le personnage est caractérisé par un être et un agir. Il s'inspire donc du schéma actantiel de Grimas et de la vision sémiologique de Hamon pour montrer que le personnage est nécessaire au roman puisqu'une action ne représente rien sans un être pour agir, pour poser l'action. Vincent Jouve, pour sa part, suggère une conception tout à fait différente du personnage, c'est-à-dire celle de sa réception et de son effet sur le lecteur. Pardon. Il traite entre autres des notions, des théories de la lecture, de l'esthétique, de la psychanalyse et de l'anthropologie. Son ouvrage « L'effet personnage » dans le roman s'intéresse à trois éléments, soit la perception, la réception et l'implication du personnage dans le roman. Il tient compte autant des informations que le texte offre qu'à celles qu'il ne révèle pas, puisqu'il considère que l'incomplétude des informations est inévitable et peut parfois être révélatrice de certains caractères du personnage. Nous voyons ainsi que les théoriciens de la fin du siècle ont proposé différentes approches variées pour traiter de la notion nous intéressant aujourd'hui. Depuis le début du 21e siècle, par contre, d'autres théoriciens remarquent, comme l'affirment Jean Molineau et Raphaël Lafay-Molineau, que, je cite, « la nature du héros a changé. Il ne s'agit plus d'un personnage actif et conquérant des romans de Stendhal et de Balzac, mais d'un être de plus en plus passif qui ne fait que développer ses impressions et sa réflexion. » Fin de la citation. Tel que l'ont décrit France Fortier et André Mercier, il s'agit davantage, je cite à nouveau, d'un ego né hic et nunc qui met en discours sa vie intérieure dans ce qu'elle a de plus immédiat, sans d'abord se plier aux logiques narratives. Fin de la citation. Si, en effet, définir le personnage romanesque comme un être agissant ne suffit plus, nous en venons à nous demander comment le caractériser différemment. Quels en sont les contours et les déclinaisons? Que peut en dire la théorie actuelle? Et quels peuvent être les impacts de son évolution sur la configuration narrative des récits? C'est dans l'optique de répondre à certaines de ces questions que nous avons organisé la journée d'aujourd'hui. Notre démarche s'inscrit dans un large projet de recherche que je laisserai maintenant ma collègue Raphaëlle Guillois vous présenter.
Bon, cette présente journée d'études s'inscrit dans le cadre d'un plus large projet intitulé « Agir, percevoir et narrer en déphasage, les personnages déconnectés comme indicateurs des enjeux contemporains de la narrativité », subvention CRSH 2012-2016. Sous la direction de René Audet de l'Université Laval et de Nicolas Xantos de l'Université du Québec à Chicoutimi, notre équipe de recherche, le RANS, s'intéresse essentiellement aux personnages des romans français et québécois publiés après 2000. Les membres de l'équipe contribuent au projet de recherche par leurs travaux individuels, communication, articles, mémoires ou thèses, mais aussi à travers certaines activités d'initiative collective, telles que l'organisation de colloques, la préparation de dossiers de revue, la participation à des ateliers de discussion et de réflexion, et la tenue d'un carnet de notes accessible sur le web, penserlanarrativité.net. On retrouve dans ce carnet diverses références aux romans contemporains, à la théorie du personnage et du récit, aux actualités du domaine, ainsi que de brefs commentaires signalant des citations intéressantes, des nouvelles parutions ou des événements liés à la problématique de l'équipe. Selon le postulat de départ du projet, bon nombre de romans de la dernière décennie mettent en scène des personnages déconnectés, c'est-à-dire en rupture avec le monde qui les entoure et conséquemment, bien éloigné du paradigme narratif de l'homme d'action. Par une lecture à la fois diégétique, poétique et philosophique, ce projet de recherche vise à saisir les enjeux de la mise en scène concrète du personnage déconnecté, la nature des métamorphoses subies par le récit et la signification de ces métamorphoses en termes de rapport entre l'être et le monde. Les enjeux qu'il soulève sont donc esthétiques et narratologiques, mais également anthropologiques. Afin de mieux cerner le personnage dit déconnecté, il nous fallut dès le départ travailler sur deux plans, d'une part celui de la théorie et de la critique, d'autre part celui des œuvres de fiction. Si notre survol de la théorie nous a vite démontré qu'aucune approche théorique ne nous permettait de saisir entièrement le personnage déconnecté, Un déblayage des ouvrages critiques publiés en France et au Québec sur le personnage contemporain ne nous a pas été d'un plus grand secours. Visiblement, le personnage déconnecté échappe à la théorie déjà établie. Dans ces conditions, comment le définir et le caractériser? Plus encore, comment l'identifier parmi d'autres et qu'a-t-il en commun avec ses semblables? Sur la base de notre corpus romanesque, continuellement en expansion, il nous a paru tout de suite indéniable que les personnages déconnectés, dont le lien avec le réel est absent ou faussé, avaient du mal à interpréter le monde, tout comme à s'y inscrire par leurs actions. En d'autres mots, la rupture vécue par ces personnages nous semblait, du moins dans la plupart des cas, de nature actionnelle ou interprétative. Or, si nous placions l'action et l'interprétation comme traits premiers de la déconnexion des personnages, il nous est apparu ensuite, à l'examen plus approfondi de notre corpus, que le rapport particulier à l'action ou à l'interprétation n'était qu'une conséquence possible de leur déconnexion et non pas son élément fondateur. Les questions essentielles permettant d'identifier le personnage déconnecté ont alors dépassé celles de l'action et de l'interprétation. Désormais, il nous faut plutôt nous demander si le personnage est en adéquation ou non avec le monde qui l'entoure, en nous posant les questions suivantes. Est-il difficile de comprendre l'intériorité du personnage? Celui-ci présente-t-il une certaine illisibilité ou une certaine anormalité? Dans cette optique, tout ce qui contribue à définir l'être humain doit être retenu à l'analyse. Action et interprétation, mais aussi affect, mémoire, désir, identité, rapport au corps, à l'espace, au temps, aux autres, à soi, etc. Face au personnage décalé, déphasé, déconnecté, il nous faut penser autrement ce que peut être l'intériorité de l'être humain. C'est en ce sens que nous parlons ici d'anthropologie renouvelée. Ainsi, nous vous proposons aujourd'hui un lieu de discussion et de réflexion sur le statut problématique du personnage romanesque. Nous vous invitons à vous pencher sur des questions entourant le personnage, son intériorité et son rapport au monde. Cette journée d'étude est l'occasion de développer le discours critique sur le personnage contemporain, de marquer son évolution et d'observer ses possibles répercussions sur la création romanesque. Nous vous remercions une fois de plus d'être avec nous aujourd'hui et nous vous souhaitons à tous une bonne journée. Et avant de laisser la parole à notre premier participant, j'aimerais dire, les participants de la journée, venez nous voir à la pause s'il vous plaît, pour qu'on vous rencontre et qu'on vous parle des petits détails de la journée. Alors voilà, merci.